mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce mardi 1er octobre. Aujourd'hui, encore une édition assez technique avec un peu de vulgarisation scientifique. On va essayer, puisqu'on va parler de la question de l'exploration des fonds marins qui commence à grand renfort de robots et autres appareils racleurs de fonds pour évidemment aller chercher des minerais possiblement précieux pour l'avenir de nos smartphones notamment. On va essayer de comprendre ce qui se passe aussi du côté des épidémies, qui touchent principalement le monde ovin avec la fièvre catarrhale. On va aller voir le projet d'une future ligne haute tension qui défigurerait une partie de la Camargue et le sud du Gard. Et avant cela, on va parler aussi de l'avenir peut-être de l'usine Solvay. C'est à Saint-Lindre, pas très loin de chez nous, puisqu'elle est menacée de fermeture pour 2025. C'était le mardi 24, donc le mardi dernier, il y a une semaine, que la société Solvay annonçait en effet d'arrêter sa production d'acide trifluoroacétique, le TFA, ainsi que d'autres dérivés fluorés qui sont pour l'instant encore produits donc dans son usine de Saint-Lindre. On est un petit peu au nord-est d'Alès, dans le Gard. Au total, donc d'ici un an, 68 postes seront supprimés tout au long de l'année. Les deux composés chimiques, l'acide trifluoroacétique et les dérivés fluorés, sont notamment utilisés en médecine, par exemple, ou en agronomie. Le groupe Solvay évoque donc, pour justifier cette fermeture, eh bien, des performances financières négatives persistantes qui sont dues à des conditions de marché défavorables et qui ne devraient pas s'améliorer. Un sous-entendu explicite aux restrictions qui sont notamment liées à la toxicité des matériaux qui y sont produits. Alors ça réagit de toutes parts, notamment du côté syndical, avec la CFDT Chimie Énergie qui a réagi rapidement et qui s'insurge contre cette décision. Malgré la suppression de postes, il faut préciser que le groupe Solvay continuerait à exploiter le GIE de l'usine, c'est le groupement d'intérêt économique qui gère les utilités en préservant donc 28 emplois. Mais pour la CFDT, cela ne suffira pas à apaiser la douleur et l'inquiétude des salariés. Du côté de la région aussi, on réagit notamment par la voix de sa présidente Carole Delga, qui a qualifié cette décision de véritable coup dur pour le territoire et ses habitants. Elle souligne d'ailleurs que cette décision intervient dans un contexte déjà tendu, marqué par plusieurs mois de polémiques sur la pollution des eaux dans la région, par exemple pour ce qui est de l'usine d'embouteillage Perrier. Tout doit être mis en œuvre pour les accompagner et leur permettre de conserver ou de retrouver rapidement un emploi, dit Carole Delga, qui termine en appelant l'État à prendre ses responsabilités. L'État doit être aux côtés des collectivités locales pour défendre l'emploi industriel. Nous attendons du gouvernement des mesures fortes et des engagements concrets pour préserver l'avenir économique des territoires. Donc, vous l'aurez compris, un contexte un peu compliqué vu que l'actualité ne cesse de rappeler en effet les méfaits de ces composés qui sont présents dans beaucoup de nos produits du quotidien et leur dangerosité notamment pour les travailleurs qui les fabriquent et qui y sont exposés dans ces usines ou tous les gens qui habitent autour, qui sont souvent aussi des travailleurs de ces mêmes usines. On se rappelle bien évidemment de l'affaire qui a secoué aussi l'entreprise Stéphal. D'ailleurs, chez les écologistes de Génération Future, on exprime aussi son soutien aux travailleurs du site Solvay de Saint-Lindre, tout en réaffirmant la nécessité d'une transition écologique de l'activité du site, une transition qui pour eux anticiperait les futures réglementations sur les rejets polluants et qui protégerait à la fois les emplois, les écosystèmes et la santé publique. Pas facile. La responsabilité environnementale des entreprises, continue le communiqué de Génération Future, tout comme leur responsabilité sociale, doivent être ici pleinement assumées. Les entreprises comme Solvay doivent répondre de leur héritage toxique, qu'il s'agisse de montagnes, de déchets ou de pollution qui s'écoule jusqu'à la mer. Il est inacceptable de laisser aux générations futures un environnement dégradé. Et de même, pour eux, il serait inacceptable de se débarrasser des salariés en accusant la concurrence internationale et les normes environnementales pour se dédouaner, sans assurer à ces travailleurs donc un avenir digne en travaillant à une réorientation des activités du site, ce qui pourrait éventuellement s'accompagner de solutions de reclassement et de reconversion adéquates. Au niveau des réactions politiques, plus ou moins le même son de cloche du côté des Insoumis, qui précise justement dans son communiqué, la France Insoumise, donc soutenir le mouvement des travailleurs de Solvay qui commence, et ils appellent donc tous ces syndicats et groupes politiques à se joindre à ces travailleurs ce 5 octobre à 10h sur place pour les rencontrer, et aussi autour des exigences suivantes. Annulation des licenciements, maintien d'une activité non polluante sur le site de Salindres qui protège les personnels et les populations, et il demande une réelle bifurcation écologique financée par les revenus du capital. Du côté de la CFDT, elle, on se contente juste de défendre le savoir-faire de l'industriel en mettant en avant sa grande place dans l'économie européenne, et ils défendent le maintien de l'activité et de l'emploi sur place. Pour ce qui est justement des négociations, ce matin sur France Bleu, le responsable CGT de l'usine était invité et il accuse le groupe de menacer les salariés pour qu'ils lèvent justement cette mobilisation qui a été lancée depuis l'annonce de la fermeture du site la semaine dernière, notamment une pétition et vous l'aurez compris donc des manifestations. Donc c'est Cédric Cozo, le délégué CGT, qui explique que la direction leur a dit que s'ils ne levaient pas le mouvement, eh bien, elle ferait le minimum dans les négociations qui sont liées au licenciement. Pas très beau joueur, donc, sous forme de chantage syndical. L'avenir des salariés et du site donc, de Salindres sera au cœur d'une discussion qui aura lieu ce vendredi à Lyon, toujours selon le délégué CGT, qui explique qu'ils avaient demandé justement une réunion, et ils ont eu une réunion avec la direction et les responsables syndicaux, ainsi que des élus, mais ils avaient demandé à ce que ça se fasse dans le Gard, sur place, et bien finalement ça n'aura pas lieu, peut-être pour éviter justement trop de médiatisation de l'affaire ou trop de débordements. Donc normalement c'est à Lyon à la fin de la semaine, le bras de fer est engagé, la pétition est toujours en ligne, et une marche est donc prévue ce 5 octobre à Salindres, organisée par les syndicats des travailleurs. Puisqu'on est dans la thématique de la pollution des sols à longue échelle, eh bien, un petit communiqué de la CRIRAD qui interpelle aujourd'hui justement les responsables de l'ANDRA. Donc la CRIRAD, c'est déjà un organisme indépendant qui s'occupe de la question de la radioactivité sur le territoire français. Et l'ANDRA, c'est l'Agence nationale des déchets radioactifs qui est en charge du fameux projet CIGEO dans la Meuse, un projet d'enfouissement donc de déchets radioactifs. La CRIRAD interpelle donc dans une lettre les responsables puisqu'ils ont procédé à l'analyse critique des études d'impact qui ont été fournies pour obtenir la DUP. C'est une déclaration d'utilité publique qui a été rendue donc dans le courant de l'été. Et aussi, ils remontent carrément même à l'autorisation de création du CIGEO, le centre de stockage donc, qui sera peut-être destiné un jour à ces déchets radioactifs les plus dangereux du secteur nucléaire. Donc la CRIRAD s'est penchée sur tous les dossiers et notamment les études qui sont assez complexes, qui incluent une multitude de paramètres, d'hypothèses et des modélisations censées prédire comment ces produits vont se comporter dans le sol. C'est la migration qu'on appelle, notamment quand ça va bouger peut-être dans des milliers d'années, quand il va pleuvoir, etc. Et bien dans un tel contexte, rappelle la CRIRAD, il est essentiel de pouvoir faire confiance à cette agence nationale, notamment à son système de contrôle qualité et aux experts qu'elle a choisis. Eh bien, ciblé sur l'état des lieux radiologiques de l'étude d'impact, ce travail de la CRIRAD révèle pour eux une densité d'anomalies sidérantes qui relève pour eux aussi bien de la négligence que de l'incompétence, carrément. Sur la base de ce constat alarmant, donc la CRIRAD demande que le secret soit levé sur l'identité des experts impliqués et tous les résultats d'analyse, ils veulent qu'ils soient publiés conformément aux obligations réglementaires qui ne sont visiblement pas respectées. Et il demande également un audit pour identifier les causes des dysfonctionnements et les mesures correctrices qui pourraient être mises en œuvre. C'est pour eux un préalable impératif à la poursuite d'un projet aussi complexe et risqué de CIGEO. Voilà, en espérant que ces lettres soient lues par quelqu'un, peut-être dans les autorités compétentes. parce que visiblement les experts ne font pas toujours attention à ce qui est écrit dans les rapports. Preuve en est aussi sur le tracé de la future A69, la fameuse autoroute Toulouse-Castres. Un pont de cette future autoroute a été à peine construit, il sera déjà détruit. Ce pont va en effet être démantelé parce qu'il n'a pas été construit au bon niveau. C'est ce que viennent de révéler les opposants à la 69 dans leur collectif La Voie est libre. Un communiqué de la semaine dernière, le 24 septembre précisément, c'était le jour du démarrage de l'opération de déconstruction de ce pont. Déconstruction, destruction donc. On pensait avoir tout vu avec ce projet ubuesque imposé à la hâte à la population, alors que sur le terrain, rien n'était prêt. Mais avec ce chantier insensé d'A69, la réalité dépasse décidément la fiction, ironisent donc les militants dans cette lettre. Le pont en question, il est sur la commune de Cambon-lès-Lavaur, un pont voûté de 7 mètres de large et long de 40 mètres, qui permet normalement de traverser le ruisseau, un petit ruisseau qui s'appelle l'Algance. Et bien donc un gros couac dans la conception, puisque cet ouvrage imposant devrait se situer presque un mètre plus bas pour permettre l'écoulement du cours d'eau, explique le collectif. C'est les piles du pont, notamment à la base, la semelle en béton, en fait, qui bloque le cours du ruisseau. Cette déconstruction va évidemment pas se faire en toute simplicité. Ça va falloir enlever des centaines de tonnes de pièces en béton et retirer d'énormes rochers en sous-sol pour reconstruire l'ouvrage au bon niveau. Une erreur qui pourrait coûter des centaines de milliers d'euros et une aggravation des retards qui s'accumulent déjà dans le gros dossier de la 69. Des travaux, toujours, des travaux titanesques, peut-être du côté de Fos-sur-Mer, et entre la Camargue et Fos-sur-Mer. C'était ce vendredi 27 septembre qu'une troisième réunion de concertation s'est tenue, une réunion au sujet du projet de ligne à haute tension. Donc cette ligne qui doit relier Le Gard et Fos-sur-Mer, la réunion s'est tenue en préfecture avec le préfet de région, Christophe Mirmand, le préfet du Gard, Jérôme Bonnet, et deux représentants de l'entreprise RTE, qui est gestionnaire du réseau de transport d'électricité, donc tous les pylônes et les lignes. Ils ont donc présenté le tracé presque final que pourrait donc prendre cette ligne électrique de 400 000 watts. Cette ligne est destinée à alimenter les activités industrielles du bassin de Fos. Alors pour ce qui est du tracé, elle resterait à l'ouest du Rhône, entre les communes de Jonquière, Saint-Vincent et Arles, puis passerait de l'autre côté, donc à l'est du fleuve, jusqu'à son terme, donc Fos-sur-Mer. Les câbles traverseraient donc le parc naturel régional de Camargue, ce à quoi s'opposent depuis plusieurs mois les gestionnaires du parc, mais aussi de très nombreux riverains et élus locaux. Pour le parc naturel régional de Camargue, on dénonce des risques sérieux d'atteinte à la biodiversité du territoire, tu m'étonnes, ainsi que des impacts considérables sur les filières agricoles qui sont déjà fragilisées. D'autres oppositions, je vous le disais, s'expriment en effet du côté des mairies ou des citoyens qui craignent des impacts négatifs sur le tourisme et la beauté de ce paysage. Un exemple dans France Bleu, ce sont les viticulteurs et arboriculteurs locaux qui refusent de voir leur terroir défiguré par cette ligne de 400 000 volts, selon leurs mots, avec des pylônes qui font quand même 60 mètres de haut. On a fait preuve de bonne foi en allant à la concertation, en travaillant le dossier de façon démocratique. On voit qu'on n'a été absolument pas entendu, c'est inacceptable, peste par exemple Romain Collard, qui est viticulteur à Beaucaire. Depuis le début de ce projet, donc des élus de tous bords, syndicats agricoles et associations refusent le projet de ligne très haute tension qui doit relier Fos-sur-Mer à Jonquière-Saint-Vincent et dont, il faut quand même préciser, le but consiste à décarboner la zone industrielle du port. Les opposants pourtant avancent avec une alternative, comme souvent dans ces cas-là. On propose de transférer les usines d'hydrogène, qui sont très gourmandes en électricité, donc de Fos-sur-Mer, vers une friche industrielle à Aramon. Donc les rapprocher, et ça nécessiterait pas donc tout ce câblage. Là, explique par exemple Luc Perrin, de l'association ASTA, Sauvegarde Terre d'Argence. Là, explique-t-il, il y a un terrain possible, donc à Aramon. L'électricité existe déjà avec une ligne haute tension et le Rhône qui apporte l'eau. Ça change toute la donne, mais RTE ne veut pas en parler. Le dernier projet de tracé a donc été transmis aux élus ce vendredi, mais aucune des modifications avancées par le département du Gard n'a été prise en compte non plus. Donc une réunion qui ne se passe pas sans tension, si vous me permettez le mauvais jeu de mots de journaliste. C'est Christophe Mirmand, le préfet de région, qui essaye de temporiser et de rassurer en disant que la réunion marquait la fin d'une première phase de concertation et le début d'une seconde, histoire de dire que ce n'était pas définitif. Une enquête publique sera en effet conduite en 2025 et avant ça, des études sur l'impact environnemental du projet ainsi que sur la possibilité d'enfouissement des câbles à haute tension devront être menées, tout ça dans les prochains mois, les trois prochains mois. RTE et la préfecture espèrent, eux, que les travaux débuteront en 2027 pour que cette ligne puisse être en place avant la fin de la décennie. Et sinon, explique le préfet, nous ne pourrions pas répondre aux besoins des industriels et avancer dans notre processus de décarbonation. Deux choses qui ne semblent pas pourtant aller ensemble, mais si, c'est possible.
Audi, Panem, quid meliora. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
Et allez, on y était presque, on part sous la mer maintenant, au fond des océans, où on s'inquiète notamment de la grande exploration des fonds marins, justement, pour aller chercher des minerais rares. C'est dans le journal Les Échos, qui est plutôt un partisan de l'économie, normalement, et de la croissance, qu'on s'en inquiète, pour vous dire. On s'inquiète donc du progrès déployé pour la conquête des grands fonds marins, qui a déjà commencé, c'est ce qu'on peut y lire. Des drones, des rovers, bref, une multitude de robots sont déployés dans les grands fonds marins, avec pour objectif d'extraire des matériaux stratégiques qui servent à fabriquer notamment nos appareils électroniques, les smartphones et les ordinateurs en tête. Les essais se multiplient, des projets d'extraction à grande échelle sont annoncés, faisant bien évidemment craindre des dégâts environnementaux irréversibles. À ce stade, on n'en est encore qu'à l'expérimentation, mais en tout cas, le coup d'envoi est donné. Des drones sous-marins, des robots collecteurs, une horde de nouvelles technologies développées sont déployées dans ces grands fonds marins afin de détecter et d'extraire des métaux stratégiques. Par exemple, le cobalt, le nickel ou encore le manganèse, les trois plus connus. Ce sont des minerais incontournables pour la fabrication de très nombreux appareils électroniques. Des industries entières en dépendent donc complètement, et ce, sur toute la planète. Tous ces minéraux sont pour l'instant extraits dans des mines à la surface de la Terre, dans des conditions là aussi écologiques plus que douteuses, mais les quantités astronomiques dont regorgent les fonds marins font évidemment baver d'envie tout le monde. À plusieurs milliers de mètres de profondeur, en effet, ils sont concentrés, ces minéraux, sous forme de cheminées hydrothermales, d'encroûtements cobaltifères et aussi et surtout les nodules polymétalliques. Cela concentre tous les fantasmes. Ce sont des petites boules d'une dizaine de centimètres au maximum qui tapissent les fonds océaniques sous forme de galets qu'il suffirait donc en théorie d'aller aspirer et de remonter à la surface. Et puis c'est du concentré là. Plein d'États et d'entreprises sont dans la course. Dans l'océan Pacifique, la zone de Clarion-Clipperton concentre notamment toutes les attentions. 21 milliards de tonnes sèches de ces minéraux y reposeraient, selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis. Ainsi, on aurait du cobalt et du nickel à gogo, plus que dans l'ensemble d'ailleurs de toutes les mines terrestres, selon les estimations. C'est donc un nouveau Far West à conquérir aux yeux de plusieurs entreprises. En 2021, un groupe belge, par exemple, a démontré la faisabilité technique d'une récupération de ces nodules polymétalliques à 4500 mètres de fond quand même. L'année suivante, c'est une firme canadienne qui à son tour prélevé 14 tonnes grâce à son robot collecteur. Là, c'est pour les entreprises, mais il y a carrément des États qui se sont lancés dans la course. La Chine, par exemple, avec plusieurs rovers, donc des espèces de petits tanks à chenilles qui se baladent au fond. En Europe, c'est la Norvège qui a officialisé la prospection d'une portion de ses fonds marins en Arctique. Pour l'instant, sans extraction, mais vous vous doutez bien que ce n'est qu'une étape. Tout cela se passe au large de l'archipel du Svalbard, pour essayer de trouver d'éventuels gisements. De l'autre côté du monde, de l'autre côté de la planète, c'est l'état insulaire de Nauru, au sud du Pacifique, qui va lui plus loin, en soutenant un méga projet d'extraction minière en eau profonde, qui sera prévu dans les prochaines années. Cette course à l'extraction minière sous-marine est propulsée donc par la demande mondiale en métaux. Cobalt, nickel ou manganèse, vous le citez, les trois plus connus, sont devenus le nouvel opium de toute l'industrie électronique, mais également de la transition énergétique. Et oui, parce que c'est aussi des minéraux qui sont très utilisés, notamment dans l'éolien ou les panneaux solaires et toutes ces nouvelles énergies vertes. Indispensables aussi aux batteries des voitures électriques, d'ailleurs, j'ai oublié de vous en parler, ces métaux équipent les panneaux solaires et les semi-conducteurs, des puces qui font office de cerveau dans nos appareils électroniques. L'Union européenne a fait de la sécurisation de son approvisionnement une priorité majeure d'ailleurs, ce qui laisse entendre que le retard accumulé, ou en tout cas les frilosités de l'Europe risqueraient d'être un petit peu anéanties, vu que tout le monde se met dans la course à 200%. Vous l'aurez compris, en tout cas, cette nouvelle conquête économique des abysses reste controversée pour tous ceux qui s'inquiètent un petit peu de l'état des fonds marins. La viabilité économique, déjà, ne fait pas l'unanimité. C'est pour ça, d'ailleurs, que les échos prennent ce ton un petit peu alarmant, parce que des entreprises annoncent des projets à grande échelle, alors que d'autres disent quand même avoir des doutes et des réserves, voire même parlent de fantasmes pour certains. Et enfin, évidemment, les ONG et les scientifiques craignent les dégâts irréversibles, une pollution et une destruction d'écosystèmes marins, ou encore des nuages de poussière sous-marins qui resteront en suspension, hein, car les courants sont faibles en profondeur, et les engins dont on parle, ils vont pas aspirer gentiment, hein. C'est des gros racleurs. Faut savoir qu'on ne sait absolument pas ce qu'il y a au fond des océans, on n'y voit rien, on peut pas analyser on ne peut pas non plus analyser exactement avec des systèmes de photos, donc il faut vraiment descendre et puis racler tout ce qu'on peut et aspirer et voir en surface ensuite ce qu'on aura. En définitive, c'est donc la perturbation d'une biodiversité qui jusque-là vivait tranquille, loin des activités humaines, qui risque de se produire, d'autant qu'en plus nos connaissances scientifiques sur les plaines abyssales sont encore très lacunaires, et les scientifiques le disent, tout reste à découvrir, ils ont eux aussi enfin des robots et les moyens pour aller voir ce qui s'y passe, mais malheureusement ils ont l'impression de servir de caution à toute l'industrie minière justement qui est juste derrière eux et qui regarde sur leur épaule ce qu'ils trouvent. La France et d'autres pays défendent pour l'instant une interdiction totale des activités minières dans les fonds océaniques. Voilà, mais on ne sait pas donc si la situation va rester comme cela.
Alors, but in my opinion, I am sure, mais alors I am tout à fait sure que c'est un coup de fantomas.
Qui sème la zizanie chez les éleveurs d'ovins. C'est la crise dans l'élevage, et c'est le journal Reporter qui fait le point justement sur ces trois épisodes aussi. C'est donc des épidémies dans le monde animal, c'est ainsi qu'on dit. Ces trois donc épisodes aussi qui touchent simultanément le pays. Ce reportage commence dans la montagne ardéchoise, dans une petite exploitation où sous un hangar, trois animaux sont enfermés dans un petit enclos. Des brebis donc, qui sont les dernières en date à avoir été contaminées par la fièvre catarrhale ovine, la FCO8. On est dans une petite ferme, le repère du lézard, avec un couple d'éleveurs qui se désolent et qui montrent par exemple une agnelle encore clouée au sol, incapable de se lever. Ça dure depuis la mi-août. Cette famille d'éleveurs a vu 27 de ses bêtes mourir de la FCO8, ce qui représente 37% du cheptel, explique l'éleveuse Mathilde. Elle et son compagnon se rappellent ce mois d'août difficile, quand chaque jour, justement, ils allaient au pré la boule au ventre, sachant qu'ils allaient trouver, encore une fois, une brebis morte qu'il faudrait tracter sur la pente abrupte jusqu'au bac d'écarissage. Et explique l'éleveuse, ce n'était pas forcément les brebis les plus vieilles ou les plus faibles. Certaines allaient très bien et en quelques jours, elles ont été complètement perdues. Donc une situation très dure pour ces éleveurs. En Ardèche, ainsi, la mortalité dans les élevages a explosé. Elle a été multipliée par 5 certaines semaines par rapport à la normale. Les moutons sont les plus touchés avec près de 2000 enlèvements par les services d'écarissage depuis mi-juillet. En sachant bien évidemment que le chiffre est sous-estimé en raison du décalage entre ce qui se passe sur le terrain et les remontées d'informations. Ça, c'est Margot Brie qui l'explique, elle est directrice du groupement de défense sanitaire de l'Ardèche. Dans le sud du pays, d'autres départements ont subi le même sort, hein, la Drôme juste à côté, où certains éleveurs ont perdu plus de 90 brebis en quelques semaines. C'est une grippe foudroyante qui n'est pourtant pas nouvelle. Elle a été d'ailleurs décrite pour la première fois en Afrique du Sud au 19e siècle, puis fait son apparition en Europe méditerranéenne à la fin des années 90, au siècle dernier. 25 ans plus tard, donc, la France vivait une situation inédite avec trois de ces fièvres simultanément. En plus de la FCO8, de la fièvre catarrhale ovine, ces différentes variétés, deux autres virus mortels pour les ruminants sévissent en ce moment sur le pays. On a la maladie hémorragique épizootique, MHE, ça c'est plutôt sur le sud-ouest de la France, et la FCO3 dans le nord-ouest, donc une fièvre catarrhale, mais d'une autre variété, celle-là c'est la numéro 3. Ces trois maladies ont en revanche toutes un point commun, c'est en effet qu'elles sont transmises par des petits moucherons qui sont même infectés, on les appelle les culicoïdes. Ce sont des insectes femelles de quelques millimètres qui vont creuser la peau de ces moutons, mais aussi les vaches et les chèvres, jusqu'à pouvoir se nourrir de leur sang. Ça, c'est la manière de vivre normale de ces petits moucherons. C'est ainsi qu'ils vont ensuite pouvoir devenir adultes et pondre leurs œufs. D'un repas à l'autre, évidemment, l'insecte transporte l'infection, contamine un nouvel animal, et ainsi de suite. Ce sont donc des vecteurs de maladies qu'elles ont en commun, ces trois maladies. Et on retrouve les culicoïdes partout dans le monde, avec plus d'un millier d'espèces recensées. Si les virus existent en Europe depuis environ 20 ans, et que les insectes se sont adaptés aux environnements locaux, alors comment expliquer justement la crise sanitaire actuelle? Pourquoi tout d'un coup ça explose? Eh bien, face à cette question, pas de réponse tranchée de la part des chercheurs, qui restent prudents. Pour l'instant, on ne sait pas exactement pourquoi ces maladies émergent davantage, mais on a un faisceau de preuves, explique notamment Thomas Balanguien, qui est vétérinaire entomologiste, donc spécialiste des insectes, au CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Les indices, tous ces indices, donc en tout cas des conditions qui font que ces maladies explosent, sont en réalité les deux faces d'une même pièce, une fois encore, l'activité humaine, puisqu'on a d'un côté l'accélération des échanges à la surface de la planète, qui va faciliter l'introduction de la maladie sur de nouveaux territoires, et de l'autre côté, la hausse des températures, là aussi liée aux activités humaines, qui va affecter ces petits moucherons, les culicoïdes, en augmentant leur abondance et aussi la fréquence à laquelle ils prennent leur repas, selon les zones. En effet, depuis la première introduction de la fièvre catarrhale en Europe du Nord, c'était en 2006, les expertises sur le sujet ont fait un bond et on étudie de très près ces fameux culicoïdes. Et il y a même une veille sanitaire internationale qui a été mise en place. Des vaccins, d'ailleurs, sont développés par des laboratoires, mais de nombreux mystères persistent. Par exemple, si l'apparition de la MHE, dont je vous ai parlé, là, celle qui est venue d'Espagne, MHE, je vous rappelle, c'est maladie hémorragique épizootique. Si cette MHE qui est venue d'Espagne était attendue, puisqu'elle était déjà sur place, rien n'expliquait l'émergence d'une nouvelle souche de FCO8 dans le Massif central en août dernier, par exemple, ou le fait que la FCO3 soit passée aux Pays-Bas un mois plus tard. Est-ce que c'est le virus qui a muté? Est-ce que ce sont de nouveaux moucherons qui sont arrivés contaminés par notamment les phénomènes d'importation ou des animaux qui auraient été déplacés sans être déclarés? De nombreuses hypothèses sont nombreuses. Et le chercheur du CIRAD le confirme, tant qu'on n'a pas compris le mécanisme, il est probable que ça se reproduise car on ne peut pas agir dessus. Aujourd'hui, il existe donc une trentaine de types de ces fièvres catarrhales et 9 sérotypes pour la maladie hémorragique, la MHE. Parallèlement, en plus de tout ça, d'autres de ces maladies, de ces épisodes aussi, sont aussi surveillées de près. Il n'y a pas si longtemps, on parlait de peste porcine, qui est en Allemagne, ou la peste des petits ruminants, détectée en juillet dernier en Grèce et en Roumanie. Voilà donc pour l'état un petit peu de la recherche scientifique. Vous l'aurez compris, c'est pas forcément très enthousiasmant pour l'avenir. Sur le terrain, en tout cas dans les fermes, aujourd'hui, chacun gère la maladie au jour le jour, puisqu'il n'y a pas de réponse vraiment d'ampleur pour les accompagner. Les éleveurs et éleveuses tentent de soulager ces bêtes qui vivent avec des articulations enflées, des abcès de la fièvre, des congestions, parfois une cyanose de la langue, des difficultés respiratoires, entre autres symptômes, une sacrée grippe. Une jeune vétérinaire qui est donc sur le terrain et qui ne chôme pas en ce moment résume que la crise sanitaire, pour elle est d'abord imputable à un modèle économique dans lequel les éleveurs d'ovins peinent à subsister. Cela faisait des mois, dit-elle, qu'on appelait à la vaccination contre la FCO8, mais les agneaux ont tellement peu de valeur économique que souvent les éleveurs ont préféré ne pas acheter les doses. Et oui, on en revient à compter un peu ces sous, à savoir si ça vaut le coup de mettre les quelques dizaines d'euros dans le vaccin ou pas. En fait, explique-t-elle, tout le monde vit dans la misère, les animaux et les paysans. Comme beaucoup d'éleveurs de brebis, d'ailleurs, le couple d'éleveurs dont je vous ai parlé au début de cet article risque de faire face à une saison blanche pour eux, pour cette année, puisqu'ils ont déjà perdu une partie de leur troupeau. Et en plus, ils s'attendent à ne pas avoir d'agneaux cette année, en raison notamment des troubles de la reproduction que génère aussi cette fièvre catarrhale. Et Mathilde, l'éleveuse, explique qu'elle pense aussi aux fromagers qui dépendent de la production de lait de leur troupeau. Sans mise bas, ils n'auront pas de lait et donc, in fine, pas de fromage de brebis. Son mari d'ailleurs alerte et explique que c'est une crise qui secoue tout le pays, qu'il faudrait vraiment que le gouvernement en prenne conscience. Eh bien, la nouvelle ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, est donc attendue de pied ferme, et ça sera notamment au sommet de l'élevage qu'elle s'exprimera, on l'espère, sur la question. Ce sommet de l'élevage s'ouvre aujourd'hui à Clermont-Ferrand, et en attendant, tout le monde espère déjà voir les températures baisser, parce que les petits moucherons n'aiment pas trop quand il fait froid, donc ça permettrait de neutraliser un petit peu leur développement et les épidémies, au moins pour ces quelques mois d'hiver qui arrivent.
C'est pour ça.
Ça ne veut plus rien dire, hein?
C'est pour ça que je crois que j'ai besoin d'un petit remontant. Je vais demander un petit café, c'est pour ça.
Allez, on va se faire un petit remontant, une autre nouveauté. Eh bien, c'est le dernier titre de l'orchestre tout-puissant Marcel Duchamp qui vient de sortir aujourd'hui. Il s'appelle Color et c'est une exclusivité. Il rejoindra très vite la nouvelle playlist, d'ailleurs musicale, avec les nouveautés qui ont été rentrées dans la base hier. Il y a 104 nouveaux morceaux qui tournent sur les ondes d'Escapade. Voilà, la musique adoucit les mœurs, comme on dit. Un peu de musique et puis après, bah, des émissions. Et on se retrouve un peu plus tard pour d'autres aventures.
For we ain't no transparent, for we ain't no neutral, for we ain't no transparent, no, 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 for we ain't no transparent, for we ain't no neutral, for we ain't no transparent, no, 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 no. By the flesh, by the red color, obscured by the fume, by the smog, by the gray color. Transparent, for we ain't no neutral. Some are spoiling, others suffering. Not the same rule for every being. For we ain't no transparent, for we ain't no neutral. We're protesting, we're denouncing. Not the same rule for every being. For we ain't no transparent, for we ain't no neutral. Some have good papers to pass the borders. Not the same rule for all our faces.
Des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.